Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de donner le coup d'envoi d'une nouvelle semaine de Radio Foot en votre compagnie. Le casting de la prochaine CAN se précise, de nouveaux billets validés ces derniers jours pour le Maroc. Nous serons notamment ravis de retrouver les Comores, rassurés de revoir le Mali, impatients de féliciter la Guinée, même si ce n'est pas encore fait pour le Sili. Bon, ça se précise, grâce à la vedette Serou Guirassy, buteur magnifique et providentiel que vous entendrez tout à l'heure, en exclusivité. Nous serons néanmoins déçus et un peu surpris, ou pas vous me direz, de ne pas retrouver le Ghana au Maroc, des étoiles noires plus obscures que jamais. Bonjour Philippe Doucet.
Bonjour Hugo.
Bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Messieurs les spécialistes de l'Afrique, en quelle année faut-il remonter pour trouver trace d'une Coupe d'Afrique des Nations sans le Ghana?
2004, en Tunisie.
Joli, hein. Il n'a même pas vraiment laissé finir avant ma phrase, il avait déjà la réponse.
Je pensais avant même, j'avais oublié là-dessus.
2004, donc ça fait 20 ans. Au sommaire également, le ciel qui est un peu plus dégagé pour les Bleus, qui soignent un peu leurs maux sur le terrain de la Squadra Azzurra. Succès 3-1 en Italie hier. Et peut-être enfin un peu de répit pour le pauvre Didier Deschamps. Naïm Moniol, bonjour.
Salut Hugo, salut à tous.
En quelle année faut-il remonter pour assister à une France qui marque 3 buts sur coup de pied arrêté?
3 buts sur coup de pied arrêté?
Non, je plaisante, j'ai pas du tout la réponse.
Il y en avait 2 en finale de la Coupe du Monde 98 déjà, mais 3.
Effectivement.
C'est loin.
Non, alors peut-être loin. Qu'on pourrait poser la question sur le coup franc direct de Lucas.
C'est Roten.
Alors non, il y avait eu Pogba, je crois, du côté de Saint-Pétersbourg, qui était venu briser la malédiction entre-temps. Mais faudrait vérifier.
Le dernier doublé de la tête, c'était aussi Zidane, finale de Coupe du Monde 98.
Mmh. Ah, ça c'est de la bonne nostalgie, comme on l'aime.
Ah ouais.
Concernant Pierre-Olivier Guérin et Laurent Seller, n'ont pas besoin de réfléchir longtemps pour retrouver trace de leur dernière grande performance. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont toujours bons, que ce soit en coulisses pour l'un ou bien en manette de Radio Foot pour l'autre. Radio Foot, c'est parti.
C'est bien joué avec l'arrivée de Doumbia. Il peut frapper Doumbia. Il s'est placé, c'est au fond des filets. Ça fait 1-0 pour le Mali. L'ouverture du score des Aigles. But signé Kamori Doumbia, la 19e minute de jeu qui permet à cette équipe malienne de se qualifier pour la CAN. Et ouais, voilà, Chipino Kondé qui va se précipiter sur l'arbitre.
Kamori Doumbia, buteur décisif donc face au Mozambique. Et voilà les Aigles du Mali qui s'envolent pour le Maroc. Alors il ne fallait pas forcément espérer mieux des Maliens de Tom Saint-Fit dans ce match. Pourquoi ? Parce qu'il ne marque jamais plus d'un but dans un même match, dans ses éliminatoires de la CAN. Service minimum Philippe Doucet d'un outsider toujours attendu, souvent décevant, à savoir le Mali.
Oui. Dernièrement décevant surtout, parce qu'on a notamment espéré dans les dernières CAN qu'ils aillent beaucoup plus loin. On sait tous leur qualité infinie au milieu de terrain où ils ont une équipe fantastique. Et puis à chaque bout du terrain, là où ça compte vraiment, dans les buts et au poste d'avançant, c'est pas tout à fait la même chose. Ça va les mêmes performances. Et du coup, le Mali est toujours sujet à une certaine inefficacité qui risque, quand on arrive au plus haut, de les limiter. C'est l'éternel problème pour eux.
Patrick Juillard.
Oui, je trouve que alors ils ont marqué assez vite et Doumbia a été malin puisque après s'être essayé aux frappes en force sur coup franc, il a marqué sur une frappe placée très subtile, un peu en trompant le gardien vraiment au sens propre du terme. Et ensuite le Mali a bien résisté. Alors c'est pas uniquement Djigui Diarra qui
il a été bon.
Voilà, sur ce match, il a fait les arrêts qu'il fallait et ils ont été courageux. Ils auraient pu aussi se mettre à l'abri, mais effectivement là, pour le coup, El Bilal Touré a pas été exceptionnel sur le match. Mais dans l'ensemble, c'est assez mérité. Le Mozambique, il lui manque un point pour rejoindre le Mali. Ça devrait pouvoir le faire contre la Guinée-Bissau, mais c'est un vrai match à 6 points. Qui va opposer ces deux équipes lusophones.
Un mot sur le Mali.
C'est toujours un peu de peine pour El Bilal Touré, parce que c'est un attaquant qui est finalement peu servi dans cette équipe. Le jeu est très dans l'axe avec Bissouma qui vampirise tout et ça peut se comprendre. Il est très bon. Et le milieu de terrain est très bon. Mais c'est vrai qu'au niveau des côtés, Kamano n'a pas été bon du tout. Il est finalement très peu servi. Alors c'est très bien.
Kamano, c'est la Guinée.
Pas Kamano, non, c'est pas l'autre.
D'Orgelès.
Voilà. Et c'est très bien que Doumbia ait marqué. Le vrai souci, c'est que El Bilal Touré, qui avait pourtant marqué au mois d'octobre, finalement est peu servi.
Donc toujours ces problèmes offensifs. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du train qui arrive à l'heure et on verra après pour la CAN, il a le temps de monter une équipe ou bien est-ce qu'on doit s'inquiéter de voir toujours un petit peu les mêmes problèmes
offensifs? Non, là il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est une qualification décrochée à l'extérieur contre une équipe qui ces derniers temps était plutôt souveraine chez elle. Il a le temps, il peut améliorer les choses, on parle du coach bien sûr. Maintenant, on ne va pas avoir un Victor Osimhen malien qui va émerger dans les deux mois qui viennent.
Non,
mais avec les joueurs qu'il a, on peut arriver à faire quelque chose de
présentable. Kamore Doumbia, il prend une dimension particulière.
Kamore Doumbia, c'est un joueur qui invente des buts. C'est un joueur qui est inventif, donc qui a quelque chose de
qui apporte peut-être ce grain de
folie. Et le but, c'est ça. On attend une frappe forte, un plat du pied ouvert et il met une petite frappe au ras du poteau, très subtil et ça fait mouche.
Oui, parce que je me souviens par exemple au Cameroun de l'élimination du Mali face à la Guinée équatoriale, un match largement dominé et trop scolaire en même temps du Mali.
Oui, oui, non, mais c'est le défaut. Ils ont plein de très bons joueurs au milieu de terrain, mais beaucoup de joueurs du même style, du même type, qui produit un football de qualité. Il faut maintenant qu'El Bilal Touré,
et des joueurs d'académie,
quel potentiel. Hein, attention, El Bilal Touré, il a complètement le potentiel pour devenir un grand d'Afrique.
Mais il est peu servi, en fait. C'est un garçon qui est finalement pas tellement cherché dans son équipe.
Non, mais absolument. Et puis, on réussit ou on ne réussit pas dans une équipe nationale. Il y a toujours un aspect psychologique qui peut être important. Guirassy vient enfin de réussir avec la Guinée, mais c'est depuis trois matchs. Hein.
Ouais,
avant,
il
n'était pas du tout à son niveau. Voilà,
ça
ne me choque pas du tout. Et je pense qu'El Bilal, il a la capacité. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler du Mali, même quand on arrivera à la CAN 2025. On ne peut pas parler du Mali comme un grand favori parce que c'est une équipe incomplète. Il y a des secteurs où on peut dire que ce n'est pas les meilleurs d'Afrique. Mais sur un tournoi, évidemment, ils peuvent faire partie des équipes qui vont loin.
Et puis des joueurs qui sont beaucoup d'académie. Donc peut-être justement les défauts de leur qualité, c'est très bien formé, mais peut-être un tout petit peu trop
mal,
académique.
Mal,
bien sûr, c'est très bien. Mais
il y a un côté scolaire, en fait.
Mais c'est vraiment l'équipe... l'outsider très attendu quand même de ces dernières années.
Ça a souvent été la même chose avec la RDC. C'est une équipe en fait qui a un effectif incroyable dont on connaît quasiment tous les joueurs ou presque parce qu'ils passent par la France ou dans les pays européens qu'on a l'habitude de suivre. Ils ont en plus toujours de très bonnes équipes de jeunes, mais finalement quand il s'agit de passer à l'étape senior, ça ne marche pas. Et leur diaspora qui est finalement très bonne individuellement dans les clubs, pour celle qui va en sélection, a du mal à passer le cut.
Bon, la RDC reste quand même sur une demi-finale de CAN, donc on va.
Oui, et puis la RDC, ils
se sont aussi pas qualifiés la fois d'avant quand même.
C'est vrai, ouais, c'est vrai.
Le profil de l'effectif n'est pas exactement comparable. Il y a plus de vieux briscards, de joueurs de trentenaires dans l'équipe de RDC qu'au Mali.
Oui, c'est pas du tout.
C'est encore
potentiel.
Une équipe de jeunes pousses pour beaucoup.
Mais écoutez, je vous propose qu'on se mettre d'accord, hein, c'est un peu la saison des conseils de classe, on va donner les encouragements, on va encourager les Maliens, c'est bien, vous êtes passés, mais on attend mieux.
Qualifié dès la cinquième journée,
c'est pas mal. Un bon élève qui
mal.
Peut devenir un excellent élève, le Mali, on y croit. On va souhaiter désormais un joyeux retour en Coupe d'Afrique aux Comores, les héros de 2022 au Cameroun, éliminés en huitième de finale par le Cameroun. Après avoir
dans
joué
discutables,
leur huitième de finale avec un joueur et demi sur le terrain, laissez la compte, verront bien le Maroc. Alors en fait, ils l'ont déjà vu, si je dois être
oui,
tout à fait
honnête. C'est là qu'ils ont décroché
honnête.
La qualification.
Exactement. C'est à Berkane, au sein du royaume chérifien, qu'ils ont assuré leur place lors de la prochaine CAN. Une victoire face à la Gambie, 2-1. Des buts de Rafiki Saïd et de Maolida. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ces Sélacantes? On aurait pu penser que la belle histoire débutait vers 2014 avec la résurrection de l'équipe. C'était un petit peu achevé. Il n'était pas là lors de la précédente CAN. Amir Abdou n'est plus là sur le banc. Et finalement, bah non, il y a encore
non,
du...
Rappelons que lors des précédentes éliminatoires, les Comores avaient été tombés dans le groupe où il n'y avait qu'un qualifié, le groupe de la Côte d'Ivoire. Donc ils s'étaient fait doubler par la Zambie, mais ils n'avaient pas fait un mauvais parcours. Le sélectionneur Younes Zerdouk, ex-adjoint d'Amir Abdou, avait été remplacé par Stefano Cousine. Et ce dernier, je trouve, a réussi à faire de cette équipe, à inculquer un petit supplément d'âme et d'esprit commando à cette équipe. Et c'est comme ça qu'ils ont décroché la qualification. Ils étaient menés, mais ils savaient qu'un nul leur suffisait et que la Gambie, au contraire, avait besoin absolument de gagner. Et ils ont su ensuite exploiter très bien les espaces qui se sont créés au fur et à mesure des minutes. Et le but à la 90e, ça symbolise ça. Cette qualification, elle est belle comme un but à la 90e. Il y a aussi des joueurs qui n'étaient pas si loin que ça, des équipes de France Espoir, voire qui ont fait des séjours, comme Warmed Omari en défense ou Zaidou Youssouf au milieu, qui maintenant font partie de cette équipe. Donc ça montre qu'elle est attractive, qu'il y a une émulation et le sélectionneur fait du bon boulot. Et il a eu l'intelligence de ne pas déconstruire entièrement ce qui avait été fait avant. Il apporte plutôt des petites retouches. Et cette équipe continue de gagner en consistance, en maturité. Et c'est comme ça qu'elle s'est qualifiée.
Il y a un exploit qui est fait contre la Tunisie. De toute façon, la qualif, elle est là, en fait.
4 points sur 6, ouais.
Même si derrière, tu bats la Gambie et battes la Tunisie, c'était un exploit incroyable. C'est toujours un truc assez fou. Et c'est là où tu dois avoir un très bon meneur d'homme plus qu'un entraîneur. C'est quand tu construis une équipe avec des types qui sont à la fois à un niveau professionnel comme à un niveau amateur, parce que tu as des joueurs de bagne en National 2, des mecs du Danemark comme des mecs de l'Arabie Saoudite, où tu as un espèce de patchwork de joueurs où finalement personne n'est vraiment au même niveau, où personne n'a vraiment été formé pareil, et où d'un point de vue footballistique, tu as des qualités, mais pour pouvoir construire une équipe nationale, c'est plus compliqué que ça. Et là, il faut un super meneur d'homme, ce qui était Abdou, ce qui a l'air d'être cousine, je ne connais pas personnellement. Et c'est là où tu fais la différence sur des matchs comme ça. Après, tu fais aussi avec ce que tu as. Tu vois, tout à l'heure, je te disais avant l'émission, tu vas avoir deuxième Hénois, Vita et Lutin. Alors, Lutin, il joue moins et je peux comprendre pourquoi. Mais tu vois, tu vas devoir bricoler avec des joueurs qui ne sont pas forcément indiscutables dans des clubs très moyens en équipe nationale. Avec des joueurs d'Aubagne, de National.
Il y a deux Troyens aussi, dont un qui a été buteur et passeur. Rafiki Saïd, peut-être l'homme du match de cette qualif.
En tout cas, il y a une vraie continuité sur cette équipe des Comores. Il n'y a pas ce côté, malgré le patchwork, maintenant on peut parler vraiment de 10 ans de vrai bon travail de fond, Philippe Doucet. Et donc, on a envie un peu de se féliciter que ce genre de travail puisse payer, même si tout n'est pas toujours simple dans le football comorien.
Non,
faut pas enjoliver.
Oui, bien sûr, mais Amir Abdou a inventé cette équipe et il a laissé quelque chose. Ça prouve que son travail était vraiment considérable parce que alors, il est à la fois considérable parce qu'il a réussi à inventer littéralement cette équipe, cette nation footballistique, et il est aussi considérable parce qu'il a laissé de très bonnes traces. C'est-à-dire, si les joueurs aujourd'hui acceptent de jouer dans cette sélection, c'est parce qu'il y a eu ce passé-là. Et ça change tout. C'est-à-dire, quand tout d'un coup, vous avez réussi à un moment ce qu'ils ont réussi jusqu'au Cameroun en 2022, derrière, il y a des jeunes qui se disent, pourquoi pas y aller.
Crédibiliser le projet.
Alors que ayant certes des racines, mais enfin, s'ils voient une équipe prendre 4-0, 6-0 toutes les semaines, ou faire forfait parce qu'il n'y a pas d'avion ou je sais pas quoi, ça va vite, hein. Ça va vite de se retrouver finalement complètement nu et de ne plus avoir d'équipe. Et ça aurait pu arriver aux Comores. Je constate que le travail d'Amir Abdou a laissé vraiment de très, très bonnes traces et permet encore d'attirer et de maintenir du coup un niveau qui est quand même assez constant. Hein. Patrick l'a souligné, a raison. Ils n'ont pas chuté.
Non,
ils n'ont pas explosé après 2022.
Jamais.
Ils sont toujours un petit peu à la limite de se qualifier, de ne pas se qualifier. Bon, voilà. Mais ils sont, même en Coupe du Monde, ils sont pas largués. Ils sont à un niveau très correct. Hein.
Et pourtant, dans mes souvenirs au Cameroun, un certain André Ayou s'était montré bien mauvais esprit, bien mauvais joueur les concernant. Et justement, la troisième équipe de notre sommaire qui connaît son
aujourd'hui.
Sort, mais pas vraiment un sort enviable, c'est le Ghana. Match nul contre l'Angola vendredi avec un but d'Ayou, Jordan plutôt, un coup franc assez lointain, avec un gardien assez lointain également. un but de Jordan Ayou, ça nous rappelle un passé glorieux auquel le Ghana ne peut plus se raccrocher désormais. Les Black Stars sont rattrapés par le présent et ils confirment un déclin qu'on observait déjà depuis pas mal de temps. Je parlais de la Cano au Cameroun, il y a eu aussi la précédente. Enfin, ça faisait longtemps qu'on sentait que cette équipe n'était plus l'équipe qui pouvait aller en finale de la CAN en 2015. La
il
Coupe du Monde était un peu en trompe-l'œil en 2022.
Il n'arrivait plus déjà à passer le premier tour de la CAN. Ensuite, il y a eu des choix de sélectionneurs un peu baroques avec le retour de Rajevac qui était complètement largué, le remplacement par Otto Addo qui ensuite a laissé son poste à Chris Hughton qui a été remercié après la dernière CAN où ils sont sortis par le Mozambique de manière invraisemblable à une minute près. Voilà. Ensuite, un retour d'Otto Addo, depuis il n'a pas gagné un match. Et une équipe
racontée comme ça, c'est surréaliste.
Au dernier rassemblement, il y a 8 forfaits d'ordre diplomatique de joueurs qui jouaient tous pratiquement dans leur club le week-end d'avant, mais qui mystérieusement ne viennent pas en
un
sélection.
Virus.
Et non des moindres, hein, Djikou, Semenyo et j'en passe. À un moment, ce n'est pas possible. Et le Ghana, on voit que ça ne travaille plus depuis longtemps. Ils avaient une génération exceptionnelle, celle des années de fin 2000, début 2010, à Samoa Gyan, sous les Montari et j'en passe. Et depuis, même en catégorie de jeunes où le Ghana enchaînait les super parcours en CAN U17, U20, ils ne font plus rien. Les clubs, déjà, c'était difficile, ça devient catastrophique. Et à un moment, c'est une faillite pour le Ghana, alors qu'il y a des vrais...
Oui,
si on regarde les joueurs, il y a des vrais joueurs.
Qui est cohérent,
c'est ce que j'allais dire. Là, les joueurs dont vous avez parlé, il y a quand même
Kudus, Williams, Mensah,
du talent
tout ça,
et du réservoir.
Tout ça, ça oui, va, mais ça ne fait pas une équipe.
C'est là où tu vois qu'en fait, les individualités, ça ne fait pas une équipe. C'est ça. Et après, juste... Dans un monde idéal, si tu as une génération qui arrive, une continuité dans le travail, Jordan Ayew, il est plus sélectionné. En fait.
Exactement.
Normalement, Jordan, avec tout le respect que je peux avoir pour Jordan Ayew, le simple fait qu'il soit encore
vu son âge,
âge, son niveau, tout ce qu'on veut.
Pour
qui, lui qui n'a jamais été un grand buteur en plus.
Qui,
oui, mais c'est pas parce que tu en as vu ailleurs.
Même
que...
en déclin en club, apporte encore en sélection, mais c'est pas forcément la seule explication, je veux
jamais,
dire,
jamais,
c'est évidemment de la défaillance, non, des défaillances du Ghana.
Ça ne peut pas être la seule explication, mais aussi une des explications. Et non des moindres. Hein. C'est-à-dire, quand tu prends Nico Williams, tu te dis pas, bon ben, après, j'ai encore jusqu'à 33 ans, peut-être 34 ou 35, on verra ce que ça donne, j'ai encore Jordan. C'est ça le truc. Et pourtant, les Ghanéens ont des joueurs. Hein.
33 ans, ils jouent encore en Champions non, il est même en Première Ligue, pardon. Et en Première Ligue, non, franchement, Jordan Ayew, il a encore largement le niveau pour jouer à la CAN. Il y a des joueurs de, National 2 à la CAN.
C'est peut-être le problème du Ghana. C'est peut-être le problème du Ghana, Philippe, c'est qu'il y a encore Jordan Ayew devant.
C'est-à-dire qu'intrinsèquement, il a peut-être...
Non, il n'y a pas d'équipe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équipe, c'est tout.
Mais il n'y a pas d'équipe parce qu'a priori, il n'y a pas...
Il y a des joueurs, il y a le meilleur joueur d'Afrique. Kudus, c'est sans doute le plus grand talent d'Afrique.
Philippe Doucet, comme le disait...
Partey et autres. Évidemment, avec 2-3 joueurs comme ça, ça devrait suffire, mais il n'y a pas d'équipe.
Comme le disait Patrick, au-delà de pas d'équipe, il y a l'air de ne pas avoir beaucoup de...
Il n'y a pas d'esprit.
De football et de fédération, tout simplement.
Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas d'esprit d'équipe.
On choisit les sélectionneurs n'importe comment.
C'est déstructuré, alors que c'était un pays sérieux il y a encore 10 ou 15 ans, le Ghana.
Mais c'était d'une régularité phénoménale. Parce qu'en fait, c'est un pays... pétri de football, qui est vraiment
ressent le football
beaucoup plus que le Nigéria même. Je veux dire, le Nigéria a eu des grandes équipes, mais c'est plus épars et puis parfois ils sont un peu dilettantes. Le Ghana, c'était vraiment la régularité systématique. C'était demi-finale, minimum demi-finale systématique à chaque CAN, présence en Coupe du Monde et autres.
Bonne détection des jeunes talents et là il y a plus.
Et ça, c'est tombé en désuétude. Non pas deux doigts, mais cinq doigts, on va dire, de terminer en demi-finale de la Coupe du Monde en 2010 pour la première fois du football africain. Petite correction, c'est Iñaki Williams, le Ghanéen Nico Williams.
C'est son jeune frère.
Vous avez dit Nico Williams. Nico Williams, lui, il gagne plutôt l'Euro avec l'Espagne.
Mais Iñaki Williams
regrettera peut-être son choix.
Mais c'est pas mal, Iñaki Williams.
Ça n'a jamais marché en équipe nationale. C'est comme Guirassy jusqu'à il y a un mois avec la.
Mais voilà, vous rappelez les noms, mais il manque une structure. Et voilà, autant les Comores peuvent y arriver avec des joueurs au talent discutable, autant les Ghanéens n'y arrivent pas avec des talents indiscutables. Allez, on va parler de la Guinée. À présent, ce n'est pas encore fait, mais le Sili se rapproche du Maroc. Succès contre une RDC déjà qualifiée ce week-end. Succès au bout du suspense, 1-0. Une inspiration aussi géniale qu'acrobatique du buteur vedette Serro Guirassy dans les derniers instants. C'était à Abidjan, sous les yeux de Youen Gourlet, notre correspondant, qui a rencontré justement Serro Guirassy après ce succès importantissime.
C'est vrai que le scénario, il est beau, vu qu'il joue en notre faveur à la fin. Je trouve que c'était un match très important ce soir. Il fallait au moins ne pas le perdre. Et voilà, on a eu mieux, on l'a gagné. On est tous très heureux ce soir, moi y compris.
On récupère Ibrahim Gassila, l'ultime tentative. Peut-être avec le centre. Il est bon, ce centre.
Oh, le but,
le but de Serro Guirassy sur le centre d'Issien Gassila. Il s'était fait oublier. Le capitaine Serro Guirassy qui vient la claquer ce ballon. Cette reprise de volée.
J'ai toujours marqué des buts, après voilà, c'est vrai que j'en ai plus. Mais non, j'ai pas travaillé plus devant le but, non, c'est l'instinct, hein, c'est tout. C'est un sport collectif, à mes coéquipiers aussi de sentir les coups, vu que je suis de plus en plus marqué. Mais voilà, il y a des espaces qui se créent, donc il faut que mes coéquipiers s'engouffrent dans la brèche.
L'espoir du Sili National qui va dans ce match qu'on pensait plier, la finition parfaite de celui qui sera peut-être le ballon d'or africain cette année, l'attaquant de Dortmund, Serhou Guirassy.
Tout le monde nous parle du ballon d'or africain, forcément. Vous y pensez aussi?
Ouais, bien sûr que j'y pense. Après, voilà, les performances parlent d'elles-mêmes. Tous les matchs sont importants. Je suis quasiment décisif à tous les matchs. Ça, c'est très important. Après, le plus important, c'est d'emmener ma Guinée, la Guinée de tous les Guinéens à la CAN. C'est ça le plus important.
Et on dit que ce sera soit vous, soit Lukman. Vous en pensez quoi?
Soit lui, soit moi. Ça, je sais pas. Mais après, voilà, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, je mets toutes les chances de mon côté. On verra à la fin.
Serhou Guirassy au micro de Youmen Gourlet. Serhou Guirassy, on enfin, l'arrête taille plus, patron hein, avec le Sili. 6 buts sur les 3 derniers matchs de qualification.
Il en avait mis 3 sur toutes ses précédentes sélections.
Ouais, contre l'Ethiopie, il en a mis 5 en 2 matchs. Lui qui ne marquait pas lors de la précédente CAN, alors qu'il martyrisait les défenses
de
Bundesliga avec Stuttgart.
Ouais, il était même sur le banc.
Oui.
Maintenant, il est à Dortmund.
C'était Bayo qui était titulaire.
Enfin taille patron, Serhou Guirassy avec le Sili. Et forcément, ça vous change une équipe.
Ah bah on va parler de l'équipe de France après. Quand tu as un numéro 9 qui met des buts, forcément, ça change une équipe. Hein. Tu fais 2 matchs avec Bayo, tu fais 0 points. Tu fais 3 matchs avec Bayo, avec Guirassy, t'en fais 9. Après, il est bien entouré. Puis bon, c'est quand même une belle équipe.
Il y a eu aussi un changement d'entraîneur.
Ils sont dans un groupe quand même à leur portée, même si ça ne fait pas tout. Tu le vois avec les Comores, mais bon. Maintenant, on les attend, c'est à la CAN. Ce qui se qualifie, c'est une chose, mais tu as quand même pas mal de qualifiés maintenant, c'est à la CAN.
C'est pas fait parce que le match Tanzanie-Guinée, donc mardi, sera un match de qualification. Et si la Tanzanie gagne chez elle, la Guinée sera éliminée. Donc attention, c'est pas fait.
On n'a pas dit qu'ils étaient qualifiés. On a dit que Guirassy les a mis sur la bonne voie.
Parce que la Tanzanie a fait le boulot également.
Et le but est très beau. Donc
mais
c'est...
le but est capital. Oui, capital. But, sinon, le nul aurait suffi à la Tanzanie lors du dernier match. Ça change tout.
Donc c'est vraiment un but libérateur.
Et c'est le premier but encaissé par la RDC durant cette campagne éliminatoire. Donc ça souligne un peu l'exploit.
Ils ont mis du temps à l'encaisser même dans ce match.
Il est capital. Philippe a raison.
Simplement sur Guirassy, la Guinée n'a pas été vernie avec ses hommes providentiels. On pense forcément au pauvre Naby Keïta, jamais vraiment en mesure de donner ce qu'il pouvait donner avec ses pieds.
On sait qu'il y avait une incompatibilité entre Naby Keïta et Madi Camara pour des raisons plutôt personnelles. Et maintenant que Naby Keïta est un peu hors-jeu sportivement, Madi Camara est revenu dans l'équipe sous la conduite de Dussuyé. Le milieu de terrain est beaucoup plus dominateur. Enfin, ils ont repris du poids au milieu grâce à ce retour de Madi Camara, qui est un super joueur. Après, c'est dommage de ne pas avoir pu davantage faire jouer ensemble Naby et Madi quand ils étaient tous les deux.
On voit bien la difficulté pour des joueurs, on parlait du Ghana et de ses talents individuels, la difficulté d'avoir un joueur de talent et de le faire briller en sélection. Ce n'est pas automatique. Vous parliez aussi d'El Bilal Touré avec le Mali. Et là, Guirassy, il a enfin pris la place qui devait être la sienne avec le Sili national. Donc ça, c'est important.
Bah, c'est capital. C'est-à-dire la Guinée n'attendait que ça. Il a fallu quand même deux dizaines de sélections pour que enfin Guirassy arrive. Mais en fait, c'est très courant. Hein. Le football africain est très très particulier. Débarquer là-bas et tout d'un coup, dans le temps, on disait ah bah oui, mais vu les pelouses, vu les conditions, c'est normal, etc. Même avec des bonnes pelouses, comme c'est le cas aujourd'hui, malgré tout, il y a un contexte, il y a une pression psychologique qui est incomparable. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que de jouer un match de Première Ligue ou de Bundesliga ou autre.
D'autant que Serhou Guirassy, c'est...
Et puis, il faut s'habituer vraiment à un environnement. Il faut s'habituer à un environnement qui, éventuellement, certains joueurs, ne connaissent pas de par leur passé en plus.
Est-ce qu'il va être élu futur joueur africain de l'année? Est-ce qu'il va être élu joueur africain de l'année, tout simplement, Naïm Moniol? Est-ce que c'est lui le joueur africain de 2024?
En tout cas, il fait partie des 3-4 qui peuvent l'avoir. Après, malheureusement, je ne suis pas dans les votes, mais il peut prétendre à l'avoir.
Est-ce que vous lui donneriez ce trophée? On y pense un petit peu quand même. Ça se rapproche, c'est dans quelques...
Moi, personnellement, je le donnerais plus à Lukman, mais ça ne me scandaliserait pas que ce soit Guirassy, quoi. Voilà.
Moi, j'aurais aimé que la CAN ait plus de poids dans les votes des Africains. On ne parle que de joueurs, finalement, qui ont
Lukman a plus brillé à la CAN que Guirassy.
Oui, mais il s'est éteint à partir des quarts de finale. Ouais. Il n'était plus vraiment là. Bon, enfin, il a été en finale, c'est vrai. Ça, on ne peut pas lui enlever. Mais c'est quand même triste qu'on n'entende même pas parler d'un Ivoirien qui a gagné la CAN. Les possibles vainqueurs, il y en a même pas.
Le seul qui a été nommé, c'est Simon Adingra, qui ne joue pas à Brighton, donc c'est compliqué.
Mais il faut rappeler que Serhou Guirassy, toute star qu'il soit, n'est toujours pas qualifié pour la CAN, même si il a remis son Guinée, son Sili et sa Guinée plutôt sur la bonne voie. Nos auditeurs guinéens ou d'ailleurs, qu'ont-ils regardé, qu'ont-ils apprécié ce week-end devant leurs écrans ou peut-être en tribune? C'est le mix auditeur du lundi dans Radio Foot sur RFI.
Je suis Dieudonné Balangardi, journaliste depuis la ville de Kalemie et directeur de communication du FC Tanganyika Club de Ligue 1. Le match que j'ai regardé ce week-end, c'est le match entre la France et l'Italie. Je voulais vraiment voir comment la France allait se comporter sans Kylian Mbappé. Et je voulais voir encore la réaction du joueur de Didier Deschamps après les nuls des 0 buts partout contre l'Israël.
Bonjour Radio Foot International, c'est Souvenir depuis Kinshasa à Congo. Pendant le week-end, j'ai suivi beaucoup de matchs. Mais le match qui m'a vraiment marqué, c'est celui de l'équipe de France contre l'Italie. Je pense que l'équipe de France a montré un sacré caractère pour s'imposer chez les Italiens. Et ils ont montré également à plusieurs personnes que l'équipe ne doit pas être représentée que par un seul joueur. Non, l'équipe, ce sont les 11. Et hier, les 11 de blé ont été très, très forts mentalement.
Je suis Shalom au Togo. J'ai eu le bonheur de voir ce week-end le match de Guinée contre le Congo. Et on va dire que les coéquipiers de Serro Guirassy ont bien fait le taf. Serro Guirassy, buteur à la 92e minute. On l'attendait, il a encore répondu présent.
Amadou à Ottawa au Canada. En tant que Malien, je suis les résultats du Mali et je suis vraiment content qu'on s'est qualifié pour cette CAN-là, en espérant aussi que l'on puisse vraiment se reprendre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en mars prochain.
Nos auditeurs ont du talent et des avis, les expriment ces avis chaque lundi via une note WhatsApp. Pour le numéro, si vous voulez participer également, c'est sur notre page Facebook. Ils jouent aussi collectif, nos auditeurs, parce qu'ils ont fait, en tout cas pour les premiers d'entre eux, une belle passe décisive. On va parler à présent, effectivement, dans nos Radio Foot sur RFI, de France-Italie, ou plutôt Italie-France.
De discuter entre Christophe Nkunku et Lucas Digne.
Lucas Digne !
Oh là 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 ! Exceptionnel ! La frappe de Lucas Digne !
Ça fait 2-0 pour les Bleus.
Ruba palla Federico Di Marco, perso la corsia di sinistra, la scambia con Tonali, la triangolazione tra i due Di Marco dal fondo, poi attraverso di mezzo, rete, Cambiaso, accorciamo le distanze con Cambiaso.
Ouais, ce sera,
il s'en sort bien.
Italien.
Mener 3 plus 1, le doublé par Adrien Rabiot.
3 plus 1 pour l'équipe de France.
Débute sur coup de pied arrêté, une victoire, une qualification pour les playoffs de la Ligue des Nations, même si tout le monde s'en fiche un petit peu. Une bonne soirée milanaise pour les Bleus de Deschamps après la sinistrose qui s'était vraiment emparée du football français suite à la rencontre glauque sur et en dehors du terrain face à Israël, et ce match nul plus que tristoun, 0-0. Du spectacle avec l'équipe de France, Naïm Moniol.
Oh, vous allez loin quand même.
On va reposer les questions du début d'émission.
Vous allez loin avec du spectacle.
En quelle année faut-il remonter pour voir un match en ballon de l'équipe de France?
Ah, on a eu un France-Gibraltar quand même. Non, mais c'est évidemment bien mieux que face à Israël, mais en même temps c'était difficile de faire pire. Et puis c'est globalement sur l'année 2024 un match dont on avait besoin, puisque c'est une année globalement pas très bonne en termes de résultats et de jeux. Donc ça fait toujours du bien de battre l'Italie à l'extérieur, de mettre 3 buts quand bien même il n'y en aurait pas eu dans le jeu et il n'y aurait pas eu de nos attaquants. Après, tout n'est pas parfait. On se donne du répit, voilà. Deschamps s'offre, comme il le sait le faire très souvent quand il est dos au mur. Il sort une victoire un peu de derrière les fagots qui va bien. Ça lui donne 3, 4, 6 mois d'oxygène et on repart sur un nouveau truc. Voilà. Jusqu'au mois de mars, on va parler de la victoire contre l'Italie. On va un petit peu oublier ce qui s'est passé avant. Tout n'était pas parfait, tout n'a pas été bon. Mais c'est une victoire qu'on prend et c'est surtout une victoire qui doit amener des questions, qui doit amener des reconsidérations à la fois d'animation, de système et de joueurs dans le 11 de départ. Charge à Deschamps de le faire ou de pas le faire, mais au moins voilà, on termine sur une bonne note et compte tenu de l'année, je le rappelle, c'est bien.
Je vous propose d'aller au bout de votre raisonnement. C'est quoi les questions et les interrogations?
Les interrogations, c'est est-ce qu'on continue de jouer systématiquement avec trois milieux défensifs ou est-ce qu'on se dit que finalement Nkunku, qui n'est pas un meneur de jeu, et ça se voit au bout de 5 secondes, est-ce qu'on essaye de le mettre dans un milieu de relayeur et là, à ce moment-là, on sortira un des dragsters qu'on a l'habitude de voir? Est-ce que Manu Koné, qui, avec ses caractéristiques et peut-être qu'il a moins de football que certains, est-ce qu'il doit être titulaire dans cette équipe devant la défense et avoir un Rabiot Nkunku justement ? Est-ce qu'on part du principe qu'on peut essayer de remettre un peu Pavard à droite puisqu'Yar Koundé retombe dans ses travers ? Est-ce qu'on part du principe qu'il faut arrêter tout le temps de critiquer Kylian Mbappé parce qu'on voit bien qu'une attaque à deux, Kolo Muani Thuram, ça ne marche pas ? Donc voilà, c'est ce genre de considération. Est-ce qu'on reste sur un 4-3-3 ? Est-ce qu'on essaye de faire autre chose ? Je ne vais pas parler de Lucas Digne parce qu'il fait un super match, mais en même temps, on ne peut pas dire que Théo Hernandez soit franchement mauvais quand il joue. Mais voilà, au
en
moins
tout cas,
là-dessus.
Lucas Digne a fait un super match dans le jardin de Théo Hernandez. Donc
oui,
ça,
mais pas défensivement, et c'est peu le souci ouais, quand on est défenseur.
Enfin, il a fait plus en un match que Théo Hernandez en un an. Donc,
ce qui est intéressant, Théo Hernandez, il a fait plus que Digne sur toute sa carrière.
Ce qui est intéressant, Naïm, dans ce que vous dites, avec les noms que vous avez Naïm droppé, du coup, c'est que c'était pas une équipe B, mais pas une équipe habituelle pour Deschamps. Donc ça fait quoi ? Oui, ça rebat alors, les cartes, c'est une plateforme pour des réflexions à venir, comme disait Naïm.
Il y a deux types d'équipes inhabituelles. Il y a une équipe inhabituelle parce qu'il manque des joueurs et qu'il faut quand même présenter quelque chose de cohérent. C'est ce qu'on a eu hier. Et parfois, il y a des équipes inhabituelles qui n'ont ni queue ni tête, comme celle du fameux match France-Tunisie au Mondial 2022, où c'était.
Mais là, c'était vraiment, il fallait faire tourner n'importe comment. Ouais.
Mais moi, j'ai bien aimé au moins l'état d'esprit, et ça accrédite l'idée, en fait, qui est celle de Deschamps, et ce qui plaît à Deschamps, que c'est une équipe de tournoi. Parce que hier, c'était le premier match depuis le début de la Ligue des Nations où il y avait un enjeu.
C'était un match couperet, finalement.
Couperet, voilà. Soit l'équipe de France gagnait 3-1 ou plus, enfin gagnait par plus de 2 buts d'écart et elle était première, soit non. Donc, dans ces conditions-là, on a vu que c'était encore des joueurs qui avaient faim de résultats et de succès, alors que les précédents matchs, on avait plutôt vu cette équipe ronronner dangereusement, quoi. Donc, est-ce que Deschamps a encore la main ? Ça tendrait à penser que oui. Après, sur le contenu en lui-même, il y a un manque de créativité et de toute façon, base avec les joueurs qu'on a.
Avec les joueurs qu'on a, on n'en forme plus des créatifs.
Mais finalement, est-ce que, si je vous suis, est-ce que ça c'est vraiment l'important ? On a l'impression qu'en gros, Deschamps, et ça fait 12 ans qu'il est là, donc logiquement le public et les observateurs doivent bien le connaître, construire quelque chose sur le fond, sur la durée, en fait ça n'a jamais été son but. Lui, ce qu'il sait faire, c'est créer un commando pour les matchs couperets, les moments où ça compte. Et encore hier, il montre qu'il peut le faire, Philippe Doucet.
Ce qu'il a fait, en gros, moi, je ne suis pas surpris du tout. En fait, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait en finale de la Coupe du Monde quand tout était perdu. Et tout d'un coup, il n'a mis que du physique sur le terrain. Beaucoup, beaucoup de joueurs extrêmement physiques, aussi des qualités autres, bien sûr. Mais enfin, d'abord un impact considérable pour dominer déjà complètement un adversaire de cette manière-là. Ça rassure. Ça fait que tu es hyper solide, costaud dans les secteurs du jeu. Ça rassure complètement. Comme il ne l'était pas lui-même, parce que quand même, il sort d'une période un peu difficile où il est décrié de manière très, très véhémente. Il sort d'un match contre Israël qui était un brouillon. Bon, on ne va pas revenir là-dessus parce qu'il y avait sans doute un contexte psychologique qui a été un petit peu trop loin ce soir-là. Mais du coup, Deschamps s'est rassuré lui-même, en quelque sorte, en mettant vraiment du basique. On ne va pas s'embêter avec des Barcola, des Dembélé, tout ça. Non, on n'est pas là pour jouer au foot. Hein, on est là pour éventuellement gagner un match.
Oui, mais ça donne un match qui n'était pas déplaisant à voir.
En finale de la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'ils ont fait contre l'Argentine ? Ils ont et du jeu direct et tout pendant 20 minutes.
Du coup, est-ce qu'on n'est pas un peu dans des faux débats quand on parle de projet de jeu, d'identité de jeu,
avec Deschamps, c'est pas l'objet.
Dans un faux débat quand tu parles de projet de jeu.
Mais est-ce que ça tourne pas un peu à vide puisque Deschamps, il ne ment pas vraiment sur la marchandise ?
Deschamps, il aurait pu mettre un projet de jeu il y a plusieurs années quand tu avais Griezmann, quand tu avais Payet, quand tu avais Fekir, quand tu avais des joueurs qui savaient jouer au ballon. Aujourd'hui, ces profils créatifs-là, on n'en a plus. Moi, tout le monde veut me faire
Ryan Cherki, hein.
Mais il n'est pas en équipe de France. Tout le monde veut me faire d'Nkoukou le successeur naturel de Griezmann. Oui, mais c'est pas du tout les mêmes
qualités.
C'est
plutôt Olysée, après.
Oui, voilà, mais même Olysée, oui. J'en suis pas sûr. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un match pour gagner, pour se donner de l'oxygène, machin. Mais c'est un match qui peut lui revenir comme un boomerang en pleine tête, parce que si au mois de mars, tu repars sur ce que tu as vu. Je ne parle pas du niveau de jeu, je parle des joueurs. Hein. Sur ce que tu as vu contre Israël, ou sur ce que tu as vu au mois d'octobre, ou sur ce que tu as vu au mois de septembre, et que t'es pas bon. Ne serait-ce que contre la Serbie ou le Danemark, on ne sait pas contre qui on va jouer. Ce match contre l'Italie, qui finalement fait ton match référence de l'année, c'est un que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas,
avec une équipe qui est pas la tienne ou pas,
il va te revenir en pleine tête en te disant Contre l'Italie, qui est ta meilleure victoire en 2024, t'avais mis tel joueur, telle animation, c'était plus agressif, c'était plus costaud. Tu t'es pas procuré énormément d'occasions. Et Dieu sait que c'est pas facile d'être attaquant
mais
dans une équipe de Deschamps.
T'en as pas concédé des masses non plus.
C'est ça. Bon, mais prends un but quand même. Mais au moins, t'as gagné ce match-là. Si tu repars au mois de mars sur ce que t'as vu au mois d'octobre, ça va lui revenir en pleine tête. C'est ça en fait le souci. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un match qui doit mettre des réflexions et amener à un changement quel qu'il soit. C'est que tu ne peux pas aller gagner 3 en Italie en disant c'est ce qu'on a vu de mieux et au mois de mars prochain repartir sur ce que tu as vu de pire.
En parlant de la tête de Didier Deschamps, il a déclaré au micro de la chaîne L'Équipe hier après la rencontre, le sélectionneur français, je sais que vous en avez marre de voir ma tronche.
Oui,
est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de ça? Je me fais un peu son avocat, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une lassitude qui fait qu'on n'a plus envie de rien lui passer à Didier
Deschamps? Mais moi, il y a clairement une lassitude et ça date pas de ces derniers mois. Ça date de l'Euro 2021 pour ma part, donc ça fait longtemps. Et je le dis sans gêne. Ensuite, il est malin parce qu'il dit ça après un match plutôt probant avec un résultat qui qualifie la France en première position, donc qui lui permet d'atteindre un objectif. Pourquoi il ne le dit pas après une défaite?
C'est malin. Parce qu'il est malin.
Oui, voilà. Mais c'est un peu comme le match. Comme disait Naïm, ça va lui être envoyé si jamais on retombe dans nos travers récents au mois de mars. Et ça va être pareil. Les critiques et la lassitude du public et des médias va redoubler si la France continue
je vous propose...
dans ce qu'elle a fait en 2024 globalement.
Moi, je vous propose qu'on laisse un petit peu tranquille Didier Deschamps, qu'on s'attarde sur un cas beaucoup moins clivant, quelqu'un dont la tête revient à absolument tout le monde. Adrien Rabiot, Philippe Doucet.
Tout le monde, forcément les supporters de l'OM. Hein,
je crois que j'étais un peu ironique pour le coup. Doublé pour Adrien Rabiot, le joueur qui divise s'il en est, l'ancien de la Juventus qui vient marquer un doublé à Milan avec l'équipe de France, après un été qui a fait parler, lui qui est passé à l'OM, l'ancien du PSG, Adrien Rabiot. Il y a aussi un petit peu cette force de caractère chez lui. Il ressemble un petit peu à Deschamps là-dessus. Capacité à retourner les situations pas favorables.
Oui, globalement, l'équipe de France a fait preuve de caractère. Ça, c'est indiscutable. C'est un des points évidemment positifs de la soirée. Il y avait beaucoup de caractère sur le terrain. Et Rabiot en est un bon symbole, effectivement. Quand on marque des buts de la tête, en général, c'est qu'on a envie de faire des choses sur un terrain. C'est souvent plus que la qualité d'un joueur de tête, c'est plutôt l'état d'esprit qui souvent fait la différence. Et Rabiot en est un bon symbole, bien choisi, Hugo, c'est bien.
Rabiot a cette particularité dans cet entrejeu de l'équipe de France de mêler à la fois le physique et les qualités techniques. C'est le joueur footballistiquement le meilleur milieu de terrain de l'équipe de France. Sur les qualités techniques propres, il n'a pas d'équivalent, ni Tchouaméni, ni Zaïre Emery, ni qui tu veux, Guendouzi. C'est lui le meilleur. Il a un certain gabarit, un certain physique, il est intelligent avec 8 foot. Personne ne remet en cause les qualités de Rabiot. Ce qu'on peut remettre en cause en revanche, c'est que parfois il ne pousse pas à fond ses qualités. C'est un joueur qui a souvent été neutre. Pas qu'il est mauvais, c'est un joueur qui est souvent neutre, alors qu'il a des qualités qui pourraient lui permettre de s'imposer, ce qu'il a déjà fait, mais largement dans cette équipe, parfois même peut-être avec un statut supérieur à ce qu'il a. C'est ça qui est énervant chez Rabiot.
Ce qui va être intéressant maintenant de voir au sujet de Rabiot, c'est est-ce que ce doublé, ce match remarquable en équipe de France va rejaillir sur ses prestations avec l'OM ou depuis son arrivée.
Parce que lui aussi, il signe un peu un match référence.
Il est complètement à l'OM, il est complètement neutre pour le coup. Depuis qu'il est arrivé, et c'est à ce moment-là que les résultats de l'OM ont commencé à plonger sérieusement.
Adrien Rabiot, l'équipe de France, je ne dirais pas qu'on est beaucoup plus avancé, mais au moins, ça permet de terminer l'année sur une bonne note pour la bande à Deschamps.
On a arrêté de reculer déjà.
On a des pistes, il y a des questions qui se posent. Maintenant, charge à Deschamps d'y répondre.
Bah, et à vous aussi, vous êtes payé pour ça dans Radio Foot.
Moi, j'y réponds déjà, mais c'est pour moi qui fais l'équipe.
Neymonial, l'Italie? Vous en avez pensé quoi? Battu 3-1, mais pas mauvaise.
Je pense que l'Italie aurait mérité mieux. Peut-être de perdre, mais un petit 3-2 ou un 2-1, ça aurait peut-être été mieux.
Sans la parade de Maignan sur Keane, la dernière minute.
Je pense que l'Italie, malheureusement, sur le système, je suis un peu déçu d'avoir vu Barella si haut. Moi, je pense que Barella, il est meilleur un cran plus bas, ce qui aurait permis de mettre un attaquant, un vrai attaquant de métier aux côtés de Retegui. J'aime beaucoup le système sur les côtés, et d'ailleurs c'est pour ça que défensivement, je pense que Koundé et Digne ont été en difficulté, c'est que les latéraux, Cambiasso notamment, c'est un garçon qui est très fort, Di Marco on le savait, donc je pense que l'Italie elle fait ce qu'elle peut avec l'effectif qu'elle a. On en a parlé mille fois. C'est fini l'effectif de l'Italie où tu avais trois meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Par contre, elle a un effectif qui est cohérent, un jeu qui n'est pas trop mal, un jeu à la Spalletti. Voilà, ça peut, sur les mois, les années à venir, être une équipe qui redevient intéressante.
Motif d'espoir, contre, Patrick Gère.
Motif d'espoir, oui, Naïm a dit des choses très justes. Retegui, je l'ai trouvé bien trop isolé. Déjà, c'est un joueur qui n'est pas un joueur qui participe beaucoup au jeu. Là, il était dans sa grande solitude. Et par contre, je suis déçu de ce qu'on a vu dans les buts. Ça a toujours été un pays de grands gardiens de but. Il n'y a pas besoin de vous citer Dinosov ou Buffon.
C'était pas le titulaire.
Oui, mais le titulaire lui-même, il est un peu inquiétant en club. Donc, il y a un problème à ce poste-là pour l'Italie. Quoi. Et ça, c'est grave, parce que la nationale a toujours bâti ses succès sur un gardien coffre-fort.
Comme le disait Naïm, il fut un temps où on ne choisissait pas entre Retegui et Moïse Kine pour l'attaque, mais entre Del Piero, Totti et Roberto Baggio. Oui. Il y en avait même un qui restait. Qui est donc... De toute façon, le déclin, il est vertigineux, on le constate année après année.
Si vous ne suivez pas la Serie A, vous connaissez quasiment pas un nom de cette équipe italienne. Ça, c'est malheureusement une réalité du foot italien d'aujourd'hui où les stars sont tous des joueurs étrangers quasiment dans le championnat.
Il y a quand même Tonali qui est un vrai motif d'espoir au milieu.
Oui, puis Barella,
un joueur de grande classe
et puis mais qui revient. Quoi.
Qui revient, mais bien.
C'est bien. Vous avez eu raison de terminer sur une note positive. On était en train de perdre Laurent Salerno, notre maestro en régie. On va changer de sujet pour le calmer un petit peu. La Squadra Azzurra, elle reste en Ligue des Nations après tout, elle a disputé les quarts de finale. En revanche, dans le même groupe, la Belgique est éliminée, battue 1-0 en Hongrie par Israël.
Oh là là, oh là là, oh là là, avec Saba, Choua et incroyable. Le but pour Israël.
C'est incroyable.
C'est 1-0 pour Israël et donc on va se faire peur jusqu'au bout dans cette Ligue des Nations et on va même peut-être aller perdre face à la 81e nation au classement FIFA en offrant ce but. Et on va donc boire le calice jusqu'à l'Ali dans cette Ligue des Nations.
Parce que la Belgique est-elle au fond du trou, monsieur le dissipé Naïm Moniol qui discute pendant les bobineaux?
Alors, je ne sais pas si elle est au fond du trou, mais en tout cas, elle est dedans. Ça, c'est une certitude. C'est évidemment une contre-performance majeure.
Elle peut aller encore plus bas. Elle n'est pas encore au fond.
Elle peut aller en Ligue 2.
Elle peut encore descendre dans cette Ligue des Nations.
Si elle ne se qualifie pas pour la prochaine Coupe du Monde, par exemple, on dira
au fond du trou.
Mais effectivement, elle est complètement passée à côté. C'est une contre-performance majeure. Alors Israël, il a fait son match, hein, très bien, rien à dire. Hein, mais c'est évidemment une contre-performance majeure. Tout à l'heure, on parlait des individualités au Ghana et qui ne forment pas une équipe. Bah, c'est un peu pareil, parce que si vous regardez à la défense près, qui est quand même nettement moins fort qu'une époque, il y a quand même des très bons joueurs dans cette équipe. Trossard, c'est un super joueur, Doku, Luke Bakio, tout ce que vous voulez, c'est des bons joueurs. Sauf que collectivement, c'est un tour de plus. Je pense qu'ils se sont largement trompés avec ce sélectionneur. Ce qui arrive, hein, ça ne veut pas dire que c'est une pompe à vélo, ça veut juste dire qu'à l'heure actuelle, avec la Belgique, ça ne marche pas.
Ils ne sont pas seulement trompés, ils ont enfoncé le clou après.
Voilà, c'est... Mais il faut... tous les pays sont passés par là. La France, il y a bien longtemps, est passée par là. L'Italie est passée par là. Les Pays-Bas sont passés par là. L'Angleterre également. Maintenant, ce qu'il faut, c'est savoir se relever. Je ne suis pas inquiet sur la formation belge et le réservoir belge, qui est de qualité, quoi qu'on en dise. Mais c'est vrai que là, il y a des questions à se poser et des sanctions à prendre. Tu ne peux pas rester avec ce sélectionneur-là. Je pense qu'il y a des joueurs qui doivent dégager séance tenante. Bah parce que c'est toujours comme ça. Quand tu as eu un accident industriel, un dépôt de bilan, il faut savoir prendre des décisions.
Domenico Tedesco, c'est le nom de ce sélectionneur qui mérite quand même qu'on donne son nom.
C'est extraordinaire quand même ce qui s'est passé. Le 14 mars 2024, un peu plus de deux mois avant l'Euro, Tedesco a été prolongé de 2 ans. Et ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire quand on dirige une fédération, c'est-à-dire prolonger...
On ne parle pas de quelqu'un qui avait offert des garanties par le passé. Il n'avait même pas disputé le moindre tournoi.
C'était sa première expérience, donc il n'y avait pas de recul sur sa capacité à gérer un groupe en phase finale et tout ça. Et la fédération, l'Union Belge, l'a prolongé de 2 ans. Et maintenant, pour s'en dépatouiller, entre guillemets, il va falloir passer à la caisse, quoi, sortir un gros chèque. Voilà, donc c'est une mauvaise gestion.
Lui, il pense qu'il est toujours l'homme de la situation.
Oui, il peut toujours le penser. Je pense que pas un supporter de l'équipe le pense. Et plus grand monde à l'Union Belge ne le pense également. Donc là, ça va vite être réglé, à mon avis, mais ça va coûter un peu d'argent.
Domenico Tedesco, c'est fini pour lui. C'est la première décision à prendre pour que ces Diables Rouges retrouvent un tout petit peu d'allant, Philippe Doucet.
Bon, je ne sais pas si c'est la première décision à prendre, mais c'est vrai que le constat d'échec, il est incommensurable. Faire 4 points dans un groupe comme ça pour la Belgique, bon, c'est pitoyable. C'est vraiment c'est très, très en dessous du minimum possible. Quoi. Normalement, la Belgique aurait pu être troisième de ce groupe. Ça, pourquoi pas ? On peut être derrière la France et l'Italie. C'est plutôt conforme d'ailleurs à ce que fait la Belgique depuis quelques années. Donc finalement, ce n'est pas choquant en soi. Mais au moins, aller à 8 points ou quelque chose comme ça.
Et puis la manière, le contenu. Oui,
le contenu est nullissime.
Tu prends but sur but.
Et puis, ouais. et sans compter le nombre de joueurs qui ne veulent pas venir ou qui ne veulent plus venir.
À commencer
par le meilleur gardien du monde. Quoi. Bon, c'est quand même légèrement embêtant.
C'est
un bilan légèrement embêtant.
La question que je me pose, c'est comment Domenico Tedesco,
Italo-allemand.
Italo-allemand, tout simplement. D'ailleurs, je crois que Tedesco, ça veut dire allemand en italien.
Passé par Red Bull, hein, quand même, qui a des références, mais en club.
Oui, mais qui a des références en club, mais qui a priori n'a aucune attache avec le football belge. Succède à Roberto Martinez.
Qui n'avait aucune attache avec le football belge.
Qui succède à quelqu'un qui avait beaucoup d'attache avec le football belge, mais on a vu notamment en Côte d'Ivoire que c'était pas le meilleur entraîneur de tous les temps, savoir Marc Wilmots. Comment un pays qui a réussi en 15-20 ans à générer des joueurs absolument incroyables. A-t-il pu nommer des sélectionneurs avec ce pédigré sur ses bancs de touche
Tu veux qu'on parle de l'Angleterre?
Pas vraiment, parce que c'est pas au sujet, mais
non, bah c'est à peu
oui, mais
près
la, l'Angleterre, que... elle va assez loin,
oui,
dans les tournois régulièrement
donné,
quand même.
À un moment donné, c'est toujours très drôle, dit oui, mais pourquoi t'as pas ces deux grands sélectionneurs à la tête de la Belgique?
L'Angleterre, avant Tourelle, avait au moins un Anglais.
Rappelle-toi les Italiens. Bah, t'as vu ce qu'il a pris, le pauvre. Rappelle-toi les Italiens au moment où ça allait plus. Il n'y a pas grand monde qui voulait aller sur le banc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui veut y aller sur le banc de la Belgique? D'ailleurs, que moi, je veux bien. Tu m'as parlé de Wilmots. Il y a des très grands joueurs belges. On pourrait dire un ancien. Bon, Compagnie, il est déjà pris, mais tu pourrais dire un ancien pour y aller. Qui a envie d'y aller? Dans quel état est cette équipe belge? Voilà, et puis tes perspectives d'avenir, c'est que toi, t'as un gros réservoir, mais plus au milieu et devant. Derrière, c'est quand même faible. Regarde le nombre de buts qu'ils prennent. Donc, c'est toujours pareil. Tu génères beaucoup de joueurs, mais tu génères pas de grands entraîneurs. Et j'ai pas l'impression que les gens se battent pour y aller. Donc, il y a peut-être aussi un problème à la fédération. On peut taper sur l'entraîneur autant qu'on veut, mais est-ce que la fédération.
Et puis, l'Angleterre, si je puis me permettre, Tourelle, c'est pas Tedesco.
Tourelle a plus de garanties que Tedesco.
Qui gagnait des Coupes d'Europe, si vous voulez.
Oui, mais t'as aussi des pays qui ont gagné avec des entraîneurs qui n'étaient pas incroyables et des sélectionneurs qui n'étaient pas incroyables ou peu expérimentés. Et quand bien même ils ne gagneraient pas, ils feraient des parcours plus honorables. C'est pas la question. Taper sur Tedesco, oui, à l'instant T, l'équipe joue mal et tu t'en prends à l'entraîneur. Mais si le problème est aussi profond, les joueurs ne veulent pas venir et tout ce que tu veux, c'est peut-être qu'il y a un problème qui dépasse le cadre du sélectionneur.
Il y a un sentiment de gâchis. C'était vraiment 2018 ou rien pour cette équipe.
Et 2016 aussi.
De Belgique, 2016-2018, ils ont vraiment raté les deux seules occasions.
La Belgique a à chaque fois raté la dernière marche dans les tournois où elle pouvait gagner. Effectivement, maintenant, elle continue de produire des joueurs. Ça ne s'est pas arrêté d'un coup.
Non.
Il n'y a pas un creux générationnel. La Belgique continue de produire d'excellents joueurs.
Les clubs plutôt bien.
Vous avez beaucoup de
moment, mais... sauf l'équipe nationale.
Mais oui, il y a un problème de... Je pense des mauvais choix qui ont été faits. Peut-être qu'il ne fallait pas partir sur des grands noms étrangers et être un peu plus traditionnel et continuer de faire confiance à des techniciens locaux. Il y en a qui ont de bons résultats avec les clubs. Non, mais il y en a qui ont de bons résultats. Van Esbroek avec la Gantoise a eu des bons résultats et fait bien jouer l'équipe, par exemple.
Clément et les autres choisissent plutôt d'entraîner des clubs étrangers.
Voilà. Bon, on va faire campagne pour Hugo Broos. Le meilleur sélectionneur belge récent
de l'histoire du Cameroun.
Tant que c'est pas régler George les problèmes du Cameroun.
Allez, merci messieurs. Radio Foot revient demain avec l'atelier Rani aux commandes. Excellente soirée sur la FIFA.